Nous entrons donc dans la période de l'Avent. Petit rappel, Avent avec un E, c'est avant Noël, mais l'Avent avec un E signifie tout simplement la venue, celui qui va venir dans la période où nous l'attendons, celui qui est venu. Un cadeau promis depuis longtemps, un cadeau difficile à cerner tellement il était vaste. Plus un cadeau promis est important, plus une promesse est forte, plus sa réalisation est attendue, quelquefois étonnante, incroyable. Une telle promesse qui se réalise. Il y a des personnes qui ont tendance à faire des promesses qui dépassent de beaucoup ce qu'elles peuvent tenir. C'est embêtant. Il y en a d'autres qui s'engagent si peu et qui promettent si peu que toutes leurs promesses sont facilement réalisées. Mais ça ne va pas loin. Et il y en a d'autres, enfin, des personnes très précieuses, de vrais amis fidèles, qui annoncent leur soutien, qui promettent et qui tiennent leurs promesses. Dieu est bien évidemment dans le troisième cas. Et je vous invite ce matin à nous souvenir que nativité rime avec fidélité. Et quelle fidélité ! Dans le premier chapitre de l'évangile de Luc, on trouve l'épisode de l'annonce faite par l'ange à Marie, lui annonçant qu'elle va attendre un bébé. Marie, qui n'est pas encore mariée avec Joseph, qui n'a pas de relation avec d'autres hommes, dit « Comment est-ce possible ?» Et la réponse connue, très forte de l'ange est « Rien n'est impossible à Dieu. » En introduction au parcours que je vous propose ce matin, pour rappeler quelques promesses très fortes et leur réalisation en Jésus-Christ, je lis un court passage de l'Évangile qui évoque la joie débordante d'un vieil homme, Siméon, un vieux monsieur qui comprend que la réponse est arrivée. Luc 2, 25 à 33. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras. Il loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tu as tenu ta promesse. Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Quel miracle ! Siméon qui prend ce bébé dans ses bras et qui dit « C'est bon, Seigneur. Je peux partir. J'ai vu que tu tiens promesse. » Dieu avait promis tellement de choses difficiles à regrouper sur un même homme. Et Siméon a reconnu tout cela dans ce bébé qu'il a pris dans ses bras. Tellement difficile d'imaginer ce grand Messie, en même temps petit. Dieu lui-même, descendant de David, roi, prophète, serviteur. Reprenons quelques-unes des promesses principales et regardons leur accomplissement en Jésus-Christ. Tout d'abord, premièrement, Dieu avait promis un prophète. Deutéronome 18, 18. Dieu dit par Moïse, je leur enverrai un prophète comme toi. Ce sera quelqu'un de leur peuple. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commanderai. » Dieu avait donc annoncé un prophète comme Moïse, qui connaissait Dieu face à face. Un prophète qui allait révéler Dieu de façon particulièrement complète. Difficile à imaginer un prophète plus grand que Moïse. Dans Jean 7, versets 45 et 46, nous lisons « Les gardes du temple reviennent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandent « Vous n'avez pas amené Jésus ? Pourquoi ?» Les gardes répondent « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Personne. » Hébreux 11, versets 1 à 2 « Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes. Il leur a parlé souvent et de mille manières. Mais maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde. C'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Oui, Jésus-Christ a été un prophète plus grand que Moïse. Il a été quelqu'un qui a révélé plus que tous qui est Dieu. Il est quelqu'un qui a pu être appelé la parole faite homme. Il est vraiment le prophète par excellence. Dieu avait annoncé un prophète encore plus grand que Moïse. Jésus-Christ est celui qui a accompli cette promesse. Application concrète. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça fait 2000 ans que cette promesse extraordinaire a été accomplie. Pendant 1300 ans environ, on pouvait se demander, mais qui allait être plus grand que Moïse ? Ça fait 2000 ans que c'est fait. Et la question toute simple que je nous repose ce matin, l'écoutons-nous. Celui qui est plus grand que Moïse, celui qui a révélé parfaitement tout ce que nous devions connaître de Dieu, l'écoutons-nous au point de nous soumettre à sa parole, de jour en jour, d'année en année, Noël après Noël, anniversaire après anniversaire, de mieux en mieux, parce qu'il est le grand prophète. Comment puis-je l'écouter d'une seule oreille ? Comment puis-je ne pas me soumettre à sa parole ? Je demande pardon à Dieu. Parce que ça m'arrive. Deuxièmement, Dieu avait promis un prêtre, quelqu'un qui allait permettre au peuple de trouver accès vers Dieu. À nouveau, simplement un ou deux versets, à chaque fois on pourrait en lire des dizaines. Psaume 110, verset 1, psaume de David, « Le Seigneur déclare à mon maître, viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Verset 4. « Le Seigneur a fait ce serment, il ne reprendra pas sa parole. Tu es prêtre pour toujours à la façon de Melchisédek. » Celui que Dieu annonce, celui que Dieu promet, n'allait pas seulement être un prophète plus grand que Moïse, il allait être un prêtre pour toujours. À la façon de Melchisédek, dont on ne connaît pas bien la généalogie ni les parents, et qui est un symbole de quelqu'un qui vient de on ne sait pas où, de nulle part, dirait-on, et qui, dont on ne parle pas de la descendance. Et ce symbole, très fort, annonce un prêtre pour toujours. Hébreux 6, verset 20. Jésus est entré avant nous et pour nous, dans le nouveau temple. Il est devenu grand prêtre pour toujours, à la façon de Melchisédek. Et vous avez envie de lire la suite, et vous pourrez la lire tout à l'heure. Hébreux 7. Tout un chapitre qui nous dit, qui nous explique comment Jésus est tellement supérieur à tous les prêtres. Pour deux raisons, me semble-t-il, très simples à mémoriser. D'une part, il n'avait pas à offrir des sacrifices pour lui-même. Les prêtres devaient offrir pour eux, puis pour le peuple. Lui n'avait pas besoin d'offrir de sacrifices pour lui-même, il était pur. Il était sans faute, sans péché, et pouvait ainsi être pleinement consacré à sa mission pour les autres, sans avoir à être purifié lui-même avant de pouvoir accomplir sa mission. Deuxième perfection de ce grand prêtre pour toujours, il a offert un sacrifice unique, suffisant, une fois pour toutes. Là où les autres prêtres devaient, chaque année de façon très forte, et chaque jour, et plusieurs fois par jour, et des milliers et milliers de fois par an, offrir des sacrifices, en comprenant, David avait très bien compris, qu'en fait, le salut allait venir d'ailleurs. Jésus-Christ, le plus grand prêtre de tous. Application. Est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui, nous venons de prendre le pain et la coupe, en Jésus-Christ le seul moyen de salut? Le prêtre est l'agneau. Est-ce qu'il est notre refuge devant tous nos faux pas et péchés? Notre repère pour combattre le péché? Notre assurance pour être devant Dieu et les uns devant les autres, et les uns et les autres ensemble devant Dieu, malgré nos fautes, nos péchés qui quelquefois nous accablent. Il y a quelques jours, il y a quelques minutes, encore quelques échanges avec des amis troublés par leurs péchés. Le grand prêtre est l'unique prêtre pour toujours qui nous accorde le pardon des péchés vraiment. Je ne serai pas là. Ce ne sont pas des mots, promis. Je ne serai pas là. Il est celui qui nous accorde le pardon parfait des péchés. Troisièmement, déjà ça, hein, difficile à réconcilier, à tout mettre sur un seul homme. Mais ce n'est pas fini. Troisièmement, vous le savez, Dieu avait promis un roi, un très grand roi, un grand libérateur, annoncé par exemple par Ésaïe, Ésaïe 9, 5 à 6. 5 et 6. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité, assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira, le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. La situation était très décourageante en Israël et en Juda en 730 avant Jésus-Christ. Vous ne l'aviez peut-être plus en tête, moi non plus. Mais j'ai relu mes commentaires. Le royaume assyrien progresse et s'affermit, et les petits royaumes d'Israël et de Juda connaissent plus de périodes de déclin que de périodes prospères. Un des rois, Ahaz, est un très mauvais roi. Il avait 20 ans lorsqu'il devint roi, il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, etc. Situation à l'époque d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe s'ouvre avec une dénonciation très solennelle de l'hypocrisie et de la religion de forme, et un grand appel à la repentance, Ésaïe 1, 16 à 18, qui invite le peuple à arrêter de prier, de chanter, parce que ça ne sert à rien. Quand on fait ça que pour la forme. Texte très très solennel. Et on arrive à Ésaïe 9, et on a ce merveilleux texte qui va être relu des milliers de fois dans les jours qui viennent, et mis en scène par des enfants, et avec le concours des moniteurs, monitrices. Un roi nous est né, un fils nous est donné. Il étendra son autorité, assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David. Fils de David, malgré tous les mauvais rois, malgré Ahaz et tous les autres, un descendant royal parfait est promis. Et pourtant si humble. C'est si déroutant tout cela. Matthieu 21, où nous trouvons un des versets qui nous dit l'accomplissement, nous dit ceci, Matthieu 21, verset 5, « Dites à la fille de Sion, regarde, ton roi vient vers toi, sur un grand carrosse. » Non, non. Il est plein de douceur. Il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. Oui, le plus grand des rois, le grand roi en fait de toute la terre et de tout l'univers, est en même temps le plus humble. Est difficile à reconnaître. Certains ont osé s'opposer à lui. Certains se sont moqués de lui. Lui ont craché au visage. On dit « crucifie-le ». Tellement il était difficile à reconnaître. Quel roi ! Un vrai roi, un roi berger. J'aurais pu faire un autre point, je les regroupe. Dans le vocabulaire des peuples orientaux, le berger est souvent un roi. Le psaume 23 que nous aimons en pensant à des paysages très agricoles évoque aussi le roi, le berger dans le vocabulaire de ces peuples d'antan. C'est souvent et régulièrement le roi, celui qui dirige bien. Ézéchiel 34 dénonce tous les mauvais bergers. Il parle de ceux qui s'en sortent mal dans la campagne. Non. Il parle des mauvais rois. Ézéchiel 34 dénonce les mauvais bergers, les mauvais rois, et il annonce un vrai bon berger. Et Dieu dit, je vais venir moi-même. Quatrièmement, Dieu avait annoncé un serviteur. Ésaïe 52, versets 13 et 14. Le Seigneur dit, mon serviteur réussira. Il montera, il sera haut placé et couvert d'honneur. Et beaucoup, en le voyant, seront effrayés, tellement il est défiguré. Il ne ressemble plus à un être humain. D'une ligne à l'autre, le grand contraste. Et suit tout le chapitre 53 que nous lisons souvent pour nous souvenir en prenant le pain et la coupe de celui qui avait été annoncé comme serviteur souffrant. Un des textes qui nous dit que Jésus-Christ a accompli cela, Marc 10, 44 et 45. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Incroyable réalisation. Moins éclatante que d'autres, mais tellement forte. Très discrète, ce grand roi, le grand prêtre, le grand prophète est caractérisé par un esprit de service. Ça ne saute pas aux yeux, mais Marc 10 nous le rappelle. Oui, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Il est le parfait serviteur. Cinquième et dernier point, Dieu avait annoncé une délivrance totale. Et là encore, beaucoup de textes pourraient nous le dire, mais un des textes qui me laisse bouche bée est dans Zacharie 3, verset 9. Devant Josué, ou Yeshua, ça dépend de vos traductions, de vos transcriptions. Je place une pierre. Sur cette seule pierre, il y a 7 points brillants. Je vais écrire moi-même quelque chose dessus, et en un seul jour, je vais enlever les fautes de ce pays. Moi, le Seigneur de l'univers, je le déclare. Zacharie 3, 9. Deuxième texte à relire cet après-midi, si vous voulez. Vous devinez, je pense, quels sont les trois mots qui me touchent beaucoup, beaucoup. en un seul jour, je vais faire tout cela. Incroyable. Vous vous souvenez de cette période qui, comme beaucoup d'autres, est marquée par beaucoup de désordres. Il y avait déjà des carrefours bloqués à l'époque. Et plus d'un, promis. Beaucoup de désordres, beaucoup de désarroi, beaucoup de tristesse, beaucoup de péchés. Et Dieu dit, en un seul jour, je vais tout réparer. Mais comment ça? Depuis des siècles, qu'il y a des hauts et des bas, que les juges se succèdent, on nous l'a rappelé tout à l'heure. Mais comment Dieu peut-il annoncer qu'en un seul jour, tout va être réglé? Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Dieu avait promis qu'en un seul jour, il allait régler les fautes de tous les peuples de tous les temps. Déjà son peuple, il y avait de quoi faire. Et Jésus a pu dire, dans ces quelques instants sur la croix, à la fin de souffrances inimaginables, tout est accompli. Il a baissé la tête, il est mort. Adorons. Tombons à genoux. Bénissons, louons, chantons. Celui qui a traité tous nos péchés en un seul jour. Conclusion. Il avait tellement promis Dieu. Je fais un petit parcours avec vous ce matin. Il avait promis des choses tellement grandes et un cumul tellement difficile à imaginer. Déjà un prophète plus grand que Moïse, oh là, on se demandait d'où il allait venir. Un roi plus grand que David, oh là, quel roi ça va être. Un prêtre plus grand que tous les nôtres et pour toujours. Et vous mettez tout ça ensemble, et vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Mais Dieu l'a fait. Il a tenu promesse et il est venu lui-même dans la personne de son fils dans une étable à Bethléem. Siméon l'a reconnu. Ce Messie merveilleux, prophète, prêtre, roi, serviteur, sauveur, est venu. Et pour nous aujourd'hui. Et pour nous pendant cette période de l'Avent. On va relire ces textes, on va chanter des chants, on va prier en étant marqué par ce que nous lisons et méditons. Qu'allons-nous faire de tout cela? Ce que j'ai rappelé ce matin et tout ce que vous pouvez ajouter, qu'allons-nous en faire? Est-ce que nous sommes seulement devant une histoire extraordinaire? Est-ce que nous sommes simplement en train de grandir dans notre compréhension théologique des liens forts entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Tout ça, c'est pas mal. Mais en entendant comment je pose la question, vous devinez que je nous invite à autre chose. Est-ce que devant des réalités aussi fortes, nous voulons nous émerveiller seulement devant une histoire extraordinaire, devant des miracles, ou est-ce que nous voulons plus que cela? Et je nous souhaite plus que cela. Je nous souhaite une écoute qui nourrit notre foi. Celui qui avait promis l'incroyable a tenu promesse. Comment me laisserait-il tomber aujourd'hui? Celui qui avait promis l'incroyable a tenu promesse. Comment serait-il dépassé par les problèmes qui me laissent par terre, chaos? Ça m'arrive. Celui qui avait promis des promesses incroyables et qui a tenu promesse, comment ne serait-il pas fidèle dans tous les jours qui sont devant moi? Oui, je ne souhaite plus que de grandir dans notre compréhension théologique des liens forts entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je nous souhaite un émerveillement toujours plus grand devant la bonté et la fidélité de Dieu. Je nous souhaite une écoute qui nourrit la foi, qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Je nous souhaite de pouvoir dire avec Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus dit à Thomas, « Place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Puissions-nous lui dire. Amen. Merci Étienne. Je vous invite à prier. Tu es le même Dieu que celui de Noël, Seigneur. Ce jour de la naissance de Jésus et de jusqu'à le moment où il a été crucifié et où il est ressuscité. Tu étais là et tu étais Dieu. Et tu es le même Dieu aujourd'hui. Et lorsque tu nous fais des promesses, tu es tout autant capable de les tenir aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions, et comme nous y avons été invités, nous te disons, mon Seigneur et mon Dieu. Amen.